Artisans de paix. Artisans de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Ce n'est pas si souvent que les propos du pape François agitent les réseaux sociaux. Dans des articles du 10 et 11 mars, le journal La Croix relate ainsi l'affaire. Le nouvel appel du pape François à un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie lors d'une interview diffusée le 9 mars s'est accompagné d'un appel à négocier, des propos qui ont provoqué la colère de Kiev. Et l'article explique. Le symbole est fort et François l'utilise pour la première fois. Dans un entretien accordé le 2 février à la télévision suisse, le pape François estime que les dirigeants ukrainiens devraient avoir le courage du drapeau blanc. Je crois que le plus fort est celui qui voit la situation, pense au peuple et a le courage du drapeau blanc pour négocier, estime le pape. Aujourd'hui, il est possible de négocier avec les puissances internationales. Sur le fond, continue le journaliste, le pape François ne change pas de ligne par rapport aux déclarations précédentes. Depuis le début du conflit, en février 2022, le pape argentin ne cesse d'appeler au cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie et au recours au dialogue et à une solution diplomatique. Car pour lui, le jugement est clair, la guerre ne peut être vue autrement que comme une folie et une défaite. Les propos de François, qui à aucun moment ne nomme la Russie au cours de l'entretien, ont fait l'effet d'une bombe et entraîné une réaction presque immédiate de Kiev par le biais de leur représentation diplomatique auprès du Saint-Siège, et les réseaux sociaux se sont enflammés. Le journaliste analyse. Depuis l'intensification du conflit entre Kiev et Moscou en février 2022, le pape n'a jamais pris parti pour l'Ukraine, tranchant clairement avec le positionnement des pays occidentaux. Au fil des mois, il a été accusé d'être pro-russe, ce dont il s'est clairement défendu. Mais d'un autre côté, le pape n'a jamais voulu être assimilé à l'aumônier de l'Occident, estimant dangereux de soutenir inconditionnellement un camp. Il a préféré s'en tenir à une position qu'il perçoit comme strictement humanitaire, appelant chaque semaine les fidèles à prier pour l'Ukraine martyrisée et à la cessation immédiate du conflit armé. Cette ligne résolument pacifiste va d'ailleurs bien au-delà de la situation ukrainienne. Pour le pape argentin, qui ne manque jamais une occasion de condamner les marchands d'armes, ce qui comptait toujours l'établissement de cessez-le-feu ouvrant à des négociations diplomatiques, d'une manière de faire passer avant tout la sacralité de la vie, souligne-t-on au Vatican. Le but de nos efforts est d'aider les Ukrainiens à établir une paix juste et durable. Ce discours, cette position du refus de la guerre est mal reçue, mal perçue dans nos médias, dans nos familles aussi parfois. La valorisation du combat guerrier, de la résistance armée est si ancrée dans notre culture que les mots de cessez-le-feu, de négociation sont mis au rang de capitulation, de soumission, de lâcheté. Mais cela est-il si surprenant quand on pense que l'on honore encore, pour ne prendre qu'un exemple, sous la grandiose coupole des Invalides à Paris et par la grandiloquence de son tombeau, Napoléon, de millions d'Européens. En ces temps dangereux, qui enseigne dans nos écoles, dans nos familles, dans nos églises, une autre culture ? Qui parle de l'efficacité d'une non-violence active, qui enseigne le courage du refus de tuer et la résistance à l'injustice. José Ressant, bonjour. Vous êtes diacre sur le diocèse de Toulouse et engagé sur les questions de paix, de violence. Et moi, j'avais envie de poser une question. Comment on est artisan de paix dans votre mission de diacre ? Comment, au quotidien, on affronte les conflits, les difficultés, la relation ? Et comment on peut devenir, comment on peut être un artisan de paix ?
Alors, ça se passe de différentes façons, en famille, par exemple. Ça se passe aussi auprès de personnes que je rencontre qui ont été blessées par les conflits, par les guerres, comment les aider à sortir d'humiliation et de honte dans laquelle ils vivent. Voilà. Alors j'ai écrit un livre qui n'est pas encore édité, mais ça viendra un jour. J'avais trouvé un éditeur, mais il a changé d'avis. Bon, j'en trouve un autre. Alors je propose aux personnes 8 étapes. On n'est pas obligé de vivre dans cet ordre, mais je propose des étapes pour aider à se reconstruire, sortir de cet écrasement de soi et se reconstruire dans la paix.
Alors, quelques étapes.
Voilà. La première étape, c'est de croire qu'on peut sortir de cet état de honte dans lequel on vit.
Honte provoquée par la violence des autres, par la violence qu'on a pu commettre.
Oui, tout à fait. Alors, je vous avais donné des exemples l'autre fois, mais je pense qu'il y a des millions de personnes en France qui vivent dans la honte parce qu'elles sont regardées d'une façon blessante, parce qu'elles sont obèses, parce qu'elles sortent de prison, parce qu'elles sont analphabètes, parce qu'elles ont été agressées à l'école, parce que ça peut être dans leur famille, parce qu'elles ont été violées, parce que, enfin voilà, il y a mille façons d'écraser quelqu'un. Et toutes ces personnes, il y a des millions de Français qui vivent dans la honte et qui ne savent pas comment en sortir. Donc j'ai écrit un livre dans ce but, de leur donner quelques pistes.
Et vous le mettez en œuvre dans votre activité de diacre, dans les différents groupes dans lesquels vous intervenez.
Tout à fait. Alors la deuxième étape, c'est comprendre ce que c'est que la honte. Pour expliquer un peu, la honte, ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité, c'est mon regard sur moi-même. Je me trouve... J'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela, voilà, je me sens coupable. Tandis que la honte, c'est le poids du regard des autres. Ça peut être une personne ou ça peut être la société entière. Mais je vis sous ce regard. Et ça, c'est très lourd. Mais la culpabilité, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir en demandant pardon. On peut s'en sortir en essayant de réparer les bêtises qu'on a faites. On peut demander pardon à Dieu, etc. Et à ce moment-là, on sort de la culpabilité. Tandis que la honte, si vous êtes obèse, vous pouvez demander pardon à Dieu. Ça ne fera rien du tout. C'est pas par là. C'est une blessure sociale. Donc il faut une démarche sociale. La troisième étape, donc, ça sera de chercher quelqu'un qui peut m'accompagner dans ce chemin pour éclairer mon passé. Voilà, d'abord, prendre cette décision et ensuite trouver la personne ad hoc. Ce n'est pas toujours évident. Ça peut être un ami, ça peut être un psychologue, ça peut être un prêtre, ça peut être différentes personnes que je repère comme capable de m'écouter sans me juger et au contraire de m'encourager dans cette démarche. Indépendamment, ça peut être avant ou après ou au milieu de mon cheminement, rencontrer le Jésus libérateur des humiliés, des honteux. Voilà comment Jésus... J'ai repéré une cinquantaine de passages dans la Bible dans lesquels Jésus sort des personnes écrasées par l'humiliation, par la honte. En particulier, à son époque, c'était toutes les personnes handicapées qu'on considérait... On considérait qu'à cause de leurs péchés, ils étaient punis. Quelle horreur! Jésus n'a pas du tout ce regard et veut guérir ces différentes personnes. Ensuite, une autre étape, ça peut être de demander justice. Alors, ça peut être la justice d'État, ça peut être la justice de l'Église, ça peut être une justice qui reconstruit la personne.
Hein? On sait bien que le manque de justice est un axe fort de la violence et la
Absolument.
Paix, ça passe par la justice.
Absolument. Et puis ensuite, trouver un environnement dans lequel je peux exister. Tel que je suis. Alors cet environnement, je peux le trouver, mais je peux aussi le construire avec des amis, avec des connaissances que je vais fréquenter davantage, des personnes qui ont sur moi un regard positif et non pas un regard écrasant. Voilà. Et puis ensuite, toutes ces voies de libération qui convergent, il faut que je me reconstruise dans une nouvelle vie, encouragé par les uns et les autres, que je trouve ma vraie personnalité, telle que je suis, en dehors de mes blessures, et que je reconstruise ma vie.
D'accord.
Voilà.
Voilà. Et c'est le chemin. Voilà une façon d'être artisan de paix,
voilà.
En permettant à la personne blessée de se reconstruire.
De trouver la paix intérieure et la paix sociale, ouais, dont ils ont besoin.
Et peut-être qu'on peut imaginer que les pays qui sont broyés par la guerre ont aussi ce type de démarche à faire. On pourrait imaginer pourquoi les pays sont en guerre, ils souffrent, ils sont dans la honte, peut-être qu'il y aurait des transpositions à faire. Et ça se reproduit.
Ça se reproduit. Mes parents étaient blessés, ils m'ont blessé. Enfin voilà, il y a une... Et j'ai un fils qui a été blessé aussi. Enfin voilà, il y a une tendance à reproduire les comportements violents et écrasants qu'on a vécu.
Violence et guérison.
Oui,
et maître de la guérison.
Voilà.
Merci pour cette leçon sur ce chemin, sur ce cheminement et ce témoignage de cheminement, d'espoir, parce que...
On peut en sortir.
On peut en sortir. Il y a une issue à la violence.
Voilà, j'en suis sorti et j'en connais d'autres qui sont en train d'en sortir ou qui en sont déjà sortis complètement. Voilà.
Merci, José Resson. Merci beaucoup.